BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur, meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi tous les jours, vous le savez, mais aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Nous sommes mardi 26 mars. Le programme du jour, d'abord, nous allons parler du retour des introductions. En bourse, elles sont plutôt nombreuses côté États-Unis, mais aussi côté Europe, pas vraiment encore du côté de chez nous en France. On va faire le point sur les IPO de la semaine dernière, Astera Labs, Reddit, mais aussi Galderma. Et puis on se dira que pour les particuliers, attention, prudence. Avec Christian Fontaine du Revenu, on se demandera ce que signifie un bon contrat d'assurance vie. Ce sera dans un petit quart d'heure. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose. On parlera du déficit public. Côté bourse, Antoine est en train de se connecter depuis Euronext, ainsi que nos deux traders pour suivre la séance du jour du côté du CAC 40. On vous coach si vous venez toucher une grosse somme d'argent. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? C'est notre gestionnaire de patrimoine du jour, Bastien Baron, qui vous donnera ses bons conseils. Vous voulez investir, mais vous avez peur des galères locatives. Vous voulez vendre, mais rester propriétaire. Stéphane Descartiers a les solutions à vos problèmes. Et si vous étiez votre propre locataire, votre propre acheteur, ce sera dans le rendez-vous IMO, comme tous les jours, vers 11h15. Et puis, on investira dans ce qu'on appelle les meme coins. Vous savez, ces crypto-monnaies avec des chiens dessus, par exemple. Et bien, en parallèle des cryptos, ces meme coins sont les grands gagnants de l'excitation récente au sein du marché. On va faire un focus sur ces jetons, ce qu'il faut surveiller en 2024 avec Enzo Allo de Crypto Patrimoine. Puis au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre. Merci pour votre écoute et puis vos messages. Vous continuez à nous écrire sur LinkedIn, en message privé, mais aussi par email, comme Mathieu qui veut des conseils pour investir dans l'IA via son PEA. Nous vous répondrons, Mathieu, vers 11h30 avec Christian Fontaine. L'adresse est direct à bfmbusiness.fr. On part du côté d'Euronext. Rejoins Antoine. Cher Antoine, notre CAC 40 qui est un petit peu, comment dire, entre deux eaux ce matin.
Oui, effectivement, il n'y a pas trop de tendance. Alors, légère baisse là en ce moment, -0,13%. On redescend à 8140 points. L'Eurostox 50 quasi inchangé, -0,02%. Tendance un petit peu plus positive du côté de Francfort qui gagne 0,1% sur l'indice DAX. Mais on est toujours dans ce temps suspendu juste avant le week-end de Pâques. Un petit peu de pression géopolitique et globalement des investisseurs qui ne veulent pas prendre trop de risques. On voit qu'il y a quand même un tout petit peu de volatilité, qu'il y a quelques pics, notamment en avant-marché. Mais globalement, il n'y a pas de grande direction. Alors à noter qu'il y a pas mal de valeurs qui bougent beaucoup ce matin, notamment le secteur bancaire avec BNP Paribas en tête qui gagne 1,9% à 63,68€. Là c'est Goldman Sachs qui a relevé sa recommandation à achat sur le titre BNP Paribas, mais on a l'ensemble du secteur qui suit, hein, Société Générale plus 0,8, on était à 24,25, on a Crédit Agricole plus 0,79% à 13,50€. Et puis à noter qu'LVMH a bénéficié d'une bonne recommandation de Barclays, hein, qui a relevé sa recommandation a surpondéré sur la valeur, mais le titre est repassé en baisse alors qu'il avait attaqué en hausse, -0,74%. Parmi les titres en repli, à noter Stellantis aussi qui recule d'1,2% à 26,85€. On a Carrefour, la baisse assez sévère, -3,2% à 15,48€. ArcelorMittal, -0,97€, 24,96€. On a beaucoup parlé d'Atos évidemment et ses milliards d'euros de pertes, le début de négociations pour renégocier la dette. Le titre qui est un habitué au très fort mouvement boursier, là évidemment est sanctionné ce matin, mais on peut parler quand même de baisse modérée, on va dire. Il perd 6,6% à 1,60€. À noter la forte baisse d'Orpea qui baisse de 6% aussi à 11,06€. On a également une forte hausse sur le SBF 120. Là, il faut aller chercher en tête de l'indice large. C'est Ruby qui gagne 6% à 29,80€ avec Bolloré qui a dépassé le seuil des 5% du capital après une déclaration à l'AMF faite hier soir après la clôture. Donc le titre en profite bien ce matin. Le CAC donc -0,1%, on est à 8143 points. L'euro 1,0850. Les prix du pétrole toujours un petit peu tendu à $86 pour le baril de Brent de mer du Nord. Et l'once d'or fin sur de nouveaux records historiques. On est à 2178 là en ce moment sur l'once.
Merci Antoine. On vous retrouve dans une heure. Vous nous emmènerez du côté de Londres. Londres qui se lance aussi dans les produits financiers indexés sur le Bitcoin. À tout à l'heure. Pour l'heure, on fait le point sur les actualités patrimoniales, financières que vous devez maîtriser pour être meilleur investisseur.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Jean-Louis Dalloro. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes dans le reste de la journée, rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.com et vous êtes très, très occupé depuis 7h30 ce matin à analyser le déficit public.
Ben oui, parce que les chiffres sont tombés ce matin et ils sont très mauvais. On s'y attendait un petit peu. Donc 5,5% du PIB en déficit public. Pour rappel, on était à 4,8% l'année dernière. On est tout simplement l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Mais plutôt que de parler d'un ratio sur PIB qui n'a pas forcément énormément de sens, à part pour se comparer de pays à pays, il faut savoir ce que ça veut dire en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Là, on parle de 150 milliards d'euros pour 2023, toujours selon l'INSEE. Donc dans les ordres de grandeur, moi j'ai regardé, ça représente par exemple deux fois plus que ce que rapporte l'impôt sur les sociétés. C'est une fois et demie les recettes de l'impôt sur le revenu ou encore les trois quarts de ce que rapporte la TVA qui est la plus grosse taxe, le plus gros impôt en France. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son épargne? Ben oui, clairement sur le côté fiscalité. Tant que les taux étaient bas, voire négatifs, un tel déficit en réalité ça posait pas tellement de problèmes. Mais la hausse des taux de change, ça a changé la donne. Et il va falloir soit couper dans les dépenses, soit alourdir les impôts, notamment sur l'épargne. On ira probablement vers un mix des deux au cours des prochains mois. Mais il faut savoir qu'historiquement, on augmente beaucoup plus facilement les impôts en France qu'on ne baisse les dépenses.
Voilà, mode d'emploi du déficit public français. On va parler, est-ce que c'est une bonne nouvelle, du retour des introductions en bourse?
Bah oui, ça se réveille un petit peu, hein. Et notamment la semaine dernière, il y a eu de belles introductions en bourse, Astera Labs, Reddit, Galderma, qui ont plutôt bien performé sur leur premier jour. Les introductions en bourse, refont parler d'elles, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. Les marchés financiers l'espéraient depuis plusieurs mois, hein, parce que l'année 2023 avait été très très pauvre sur ce plan-là. Oui. Pour l'instant, sur le vieux continent, ça se passe plutôt bien. Entre le 1er janvier et la mi-mars, les IPO, comme on dit, ont permis de lever 3,2 milliards d'euros Ce sont les données du London Stock Exchange Group. C'est le meilleur démarrage, tout simplement, depuis 2021 en Europe, qui a été une année record. Alors, si on ne regarde pas l'ensemble de l'Europe, mais on se concentre sur la France, là, c'est un petit peu moins dynamique. On a eu en février Pluxy, hein, vous savez, la filiale du titre restaurant de Sodexo qui a fait son entrée en bourse. Mais Renault a jeté l'éponge sur Ampère, sa filiale électrique. Les plus gros morceaux à venir sont aussi des scissions, hein. C'est Vivendi qui devrait scinder en quatre groupes et Sanofi qui devrait coter à part sa filiale Santé Grand Public. Alors, est-ce que ça vaut le coup de miser sur les intros en bourse? Pas vraiment, généralement. Hein. S'il y a un ETF qui traque les performances des sociétés introduites depuis moins de 3 ans aux États-Unis, c'est un exemple parmi d'autres, hein, le Renaissance IPO ETF. Eh bien, si on regarde sur 3 ans, l'ETF il a reculé de 34%, alors que le S&P 500, lui, il progressait de 40%.
Bon, voilà.
Donc pas terrible.
Dynamique à suivre peut-être. Un mot du Bitcoin qui est ressorti de sa zone de correction, là, qui titille les 70 000 dollars à l'approche du halving, dont on reparlera avec Amaury de Tonquédec, et Cathie Wood, hein, notre oracle un peu du Bitcoin, qui place la barre très très haut sur le Bitcoin. Racontez-nous.
Ouais, très très haut. Hein. C'est la papesse de la tech américaine, hein, Cathie Wood. Elle voit le Bitcoin tout simplement à 3,8 millions de dollars. Alors, pour rappel, moi j'ai regardé ce matin tout à l'heure, on était autour de 70 700 dollars.
Oui.
Alors, pour quelle raison fait-elle de telles prévisions? Elle estime que, vous savez, les fameux ETF Bitcoin Spot qui ont été autorisés en janvier dernier et ont connu quand même un immense succès, vont continuer de se développer, même s'il y a eu un petit coup de mou là, ces dernières semaines. Mais ça va faire monter les cours à terme dans les prochains mois. Mais ça, Cathie Wood, elle explique que c'est si les grands gestionnaires d'actifs investissent 5% de leur portefeuille en Bitcoin, le Bitcoin pourrait aller vers les 3,8 millions de dollars. Ça paraît quand même très optimiste que 5% des fonds des gestionnaires d'actifs soient en Bitcoin. Et puis, il y a le fameux halving qui arrive. Hein, c'est la récompense en Bitcoin pour les mineurs qui valident les transactions sur la blockchain. Et ça va être divisé par deux, ces récompenses. Donc, a priori, autour du 19 avril. Et il y a ainsi moins de nouveaux Bitcoins mis en circulation. Et généralement, historiquement, ça se traduit par une hausse des cours.
Voilà ce qu'on pouvait retenir ce matin dans l'actualité patrimoniale. Merci Jean-Louis, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes avec Christian Fontaine du Revenu. Nous allons parler de ce que c'est qu'un bon contrat d'assurance vie. Voilà, on va faire le portrait du contrat parfait. Ce sera dans quelques minutes, mais d'abord, on passe une tête chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Nos Nos traders ce matin, ce sont Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Et puis Gilles Santacreux et ses algos du site boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, on va commencer avec vous. On s'ennuie un petit peu, non ?
Bah oui, puisque ça fait depuis le 14 mars que l'on est dans ce range d'évolution totalement horizontal. Donc on était venu, on a une zone d'équilibre autour des 8145 points. On a une zone supérieure de range à 8215 points. On a tenté une cassure sur gap haussier de cette zone, mais finalement on a vite réintégré ce range. Hier, on a tenté une cassure par le bas et puis finalement en clôture, on est revenu. Donc clairement, c'est totalement neutralisé. Alors lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'évolution des volumes, on avait plus de volume sur la dynamique haussière qui a précédé justement cette phase de range que ce que nous avons actuellement, ce qui nous indique que nous sommes dans une phase de consolidation dite horizontale. On a le luxe qui peine, hein. On a le luxe qui est dans le rouge depuis qu'on est dans cette phase de consolidation, là où d'autres indices continuent à monter un petit peu. Et globalement, c'est ce qui plombe un peu l'indice. On a le secteur bancaire qui performe un petit peu aujourd'hui, donc sous l'impulsion de BNP Paribas. Mais globalement, on n'arrive pas à se sortir de cette zone horizontale. Et c'est un petit peu, des news fortes qui pourraient éventuellement donner un petit peu plus de signal directionnel. Au niveau de mes algos, on privilégie une petite poursuite du mouvement haussier avant un retour d'une phase de consolidation. Donc là aussi, c'est assez peu directionnel. Finalement, c'est ça, ça nous fait un biais neutre sur une semaine ou deux. Et clairement, les niveaux que l'on peut observer, donc c'est cette zone d'équilibre, 8145 points que l'on peut observer. On reste en tendance haussière tant que le CAC 40 reste globalement au-dessus des 7975 points. Et on a des signaux de retournement à 7915 points. Donc globalement, tant que l'on est dans cette phase horizontale, en absence de flux, on n'a pas de consolidation qui nous amène à un mouvement baissier, on peut continuer à regarder vers le haut. Je rappelle le record à 8218 points. Si on cassait la zone des 8215, eh bien on pourrait reprendre une dynamique haussière forte et inscrire de nouveau plus haut. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. On a des news, des statistiques majeures en fin de semaine. On aura le PIB américain jeudi et le PCE Core vendredi. C'est peut-être par là que viendra la reprise de la volatilité.
Bon, en attendant le PIB et le PCE en fin de semaine, Alexandre, on continue à s'ennuyer aussi chez vous ?
Ben ouais, parce que si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est que le CAC 40, qui avait surperformé une partie des indices non seulement américains mais aussi européens pendant quelques temps, désormais les sous-performe un petit peu. En ces derniers jours, le DAX a mieux fait, par exemple, le voisin allemand a mieux fait en bourse que le CAC 40. On voit qu'il y a une thématique quand même qui pèse un peu sur le CAC depuis quelques jours. C'est le thème du luxe, c'est Kering en fait, qui par ses résultats plombe un peu tout le secteur, alors même que les autres type LVMH ou Hermès étaient vraiment sur des tendances très fortement haussières, parce que Kering fait sortir les doutes qu'on peut avoir sur la Chine. Alors moi, j'ai pas les doutes, si vous voulez, absolument fondamentaux sur la Chine. Je pense qu'il y a encore des zones d'incertitude, mais on a quand même l'impression que le plus dur a été vu sur la partie immobilière ou autre. Donc j'ai pas de crainte fondamentale, et c'est ce que j'exprime avec vous régulièrement. Moi, je pense que le CAC va aller beaucoup plus haut à moyen terme. Simplement à court terme, il y a deux facteurs effectivement qui me retiennent un peu, qui font que l'analyse que je vous propose aujourd'hui était presque la même qu'il y a 15 jours, en fait. Le CAC, ça fait 15 jours qu'on le retrouve au même endroit, parce que je pense que si ça corrige un peu en Europe et sur le CAC 40, c'est pas quelque chose qui viendra de l'Europe, en fait. Je pense que c'est plutôt outre-Atlantique qu'il faut regarder, même s'il y a de la résilience en Europe ces derniers temps, où il y a eu par rapport au marché américain notamment. On voit qu'aux États-Unis, c'est reparti de plus belle. Et c'est reparti de plus belle à cause de quoi, ou en raison de quoi? C'est Jérôme Powell la semaine dernière. Jérôme Powell qui, alors que les données d'inflation montrent une forme de résilience depuis le début de l'année, et que vous avez des indices de prix, des composantes de prix, en fait, dans les indices d'activité type PMI, par exemple, services ou manufacturier outre-Atlantique, les composantes de prix sont retendues ces dernières semaines. Eh bien, au lieu d'avoir un discours qui est un peu data-dépendant et qui dit, eh bien, on verra en fonction des prochaines données pour les baisses de taux, il indique qu'il est confiant par rapport à la trajectoire de l'inflation. Donc, tant mieux, effectivement, s'il est vraiment confiant. Mais d'un point de vue marché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça aiguise l'appétit pour les actifs risqués et ça écrase un peu plus la volatilité, alors même que les marchés américains ont rallié de plus de 30% pour le Nasdaq en 5 mois et 27-28% pour le S&P en 5 mois. Et je trouve que cette régularité de hausse sans aucune respiration un peu importante sur les marchés américains n'est pas forcément très saine dans un environnement où, on voit même qu'au sein de la Fed également, vous avez des dissensions qui semblent assez fortes entre Jérôme Powell et une partie du board qui pense qu'il y a de la place pour 3 baisses de taux, et puis certains membres comme Raphaël Bostic hier nous explique de manière très claire que pour lui ce sera une seule baisse de taux cette année. Et les données d'inflation, les dernières en tout cas, montrent que les 3 baisses de taux sont pas forcément garanties. Donc moi je m'attends, si vous voulez, à monnaie de la volatilité qui repart un peu sur les US, pas un crack, pas un truc délirant, mais un peu de volatilité où on reviendrait vers un VIX vers 15, 20, voire un peu au-delà de 20. Et je pense que c'est ça qui pourra amener une petite soupape de respiration sur le CAC, qui peut le ramener vers les 8000, voire un peu en dessous de 8000. Je dirais la zone 7008-8000 me semblerait assez logique si les marchés américains venaient à corriger. Donc voilà à peu près le scénario. Pour l'instant, encore une fois, si on vise à long terme, on ne touche rien. Je pense qu'on peut rester haussier sur tous les indices européens, il n'y a pas trop de soucis. Si par contre, on cherche éventuellement des points pour racheter du CAC un petit peu plus bas à un moment donné, je pense que le coup de tonnerre, le titre orage viendra surtout de la partie américaine qui influencera du coup la partie européenne.
Merci beaucoup Alexandre Baradège de chez IG et Gilles Santacreux pour votre perspective sur cette semaine. Et puis voilà, en attendant vendredi, le PIB, le PCE et puis Jérôme Powell aussi, hein, qui malgré le jour férié prendra la parole vendredi. On vous retrouve plus tard messieurs, merci beaucoup. Comme tous les mardis, dans quelques minutes, nous ferons le point sur le CAC mid et small, sur les petites et moyennes valeurs avec Eric Lewin. Mais avant ça, on continue à refaire l'actu économique patrimoniale avec nos invités.
Tout pour investir. Tout pour votre argent.
Jean-Louis Delaureau est resté parmi nous. Rebonjour Jean-Louis.
Rebonjour Lorraine, rebonjour à tous.
De bfmbusiness.com. Et puis, c'est mardi, Christian Fontaine du Revenu est parmi nous. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Parmi nous pour décerner des médailles. En tout cas, pour essayer de faire le portrait du meilleur contrat d'assurance-vie possible. Qui est-il ?
Alors cette semaine, effectivement, au Revenu, c'était un peu notre festival de Cannes puisque nous avons décerné les prix aux meilleurs contrats d'assurance vie, ce que nous faisons depuis maintenant 1978. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Alors qu'est-ce que c'est un bon contrat d'assurance vie ? Ben, un bon contrat d'assurance vie, c'est un contrat qui répond à vos besoins d'épargnants. Donc c'est bien sûr, pour certains, ça va être un contrat, je dirais, très dynamique. Pour d'autres, un contrat plutôt avec un niveau de risque relativement limité. Alors au Revenu, on aime bien récompenser les contrats par réseau de distribution, parce qu'à chaque type de réseau de distribution correspond une clientèle cible. Donc si vous recherchez avant tout dans un contrat d'assurance vie un placement sans risque, vous savez, c'est le fameux fonds en euros, spécificité franco-française. Si vous cherchez un contrat d'assurance vie qui a été rentable l'année dernière, mais surtout qui sera rentable dans les années à venir, il vous faut un contrat qui sera certainement proposé par une mutuelle d'assurance avec ce qu'on appelle un petit peu un taux naturel, c'est-à-dire un taux qui correspond à la rentabilité des actifs sous-jacents, pas un taux dopé pour attirer les chasseurs de primes. Suivez mon regard. Alors, ça, c'est pour si vous souhaitez surtout un contrat peu risqué. Après ça, vous pouvez aussi souhaiter, notamment si vous êtes, je dirais, fidèle de votre émission Lorraine, un contrat plus dynamique, un contrat peu chargé en frais, un contrat qui vous permette d'exposer votre épargne aux marchés internationaux, qui propose des ETF, ces fameux fonds indiciels cotés en bourse qui vont être gérés par les plus grands gérants mondiaux, les BlackRock, la Amundi, les Vanguard. Ça, dirigez-vous plutôt vers un contrat proposé en ligne, 100% en ligne. Et puis, il y a une autre catégorie de contrats que vous aimez beaucoup et qu'on aime aussi beaucoup au Revenu, c'est tous ceux qui permettent d'investir en direct en bourse. Votre PEA est plein. Pour des raisons diverses et variées, vous n'avez pas envie de payer 30% d'impôts sur vos gains boursiers en investissant via un compte titre ordinaire. Et bien, la solution, c'est investir en bourse via le contrat d'assurance-vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contrats d'assurance-vie modernes permettent d'investir dans du Nvidia, du Apple, de la BNP, de Soggen et j'en passe. Et donc, voilà, ça c'est une autre catégorie et je dirais terminer très rapidement en disant bien sûr que les auditeurs qui nous écoutent, les investisseurs, investisseuses, ils se disent à la fois ce sont parfois pour certaines parties de leur épargne des investisseurs très prudents, puis pour d'autres des investisseurs dynamiques. Donc là la solution, vous l'avez, c'est qu'il vous faut plusieurs contrats, plusieurs poches fiscales, et le gros avantage c'est que sur le plan fiscal, c'est qu'à la fin de l'année toutes les classes d'actifs n'auront sans doute pas progressé de la même façon, et donc s'il y a certaines classes d'actifs qui ont baissé, vous aurez certains contrats en perte, et si vous avez besoin d'argent pour compléter vos revenus, vous puiserez dans ces contrats, ça vous évitera de passer par la case impôts et prélèvements sociaux.
Jean-Louis.
Pour compléter un peu ce que dit Christian, moi je pense qu'il faut bien regarder aussi les choix de placement que vous allez avoir en unité de compte. Voilà, est-ce que vous avez accès à beaucoup de fonds différents, est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de faire en termes de thématiques, en termes de marché, etc. Et puis il faut aussi, moi je pense quand même, des contrats qui puissent évoluer en fonction de votre âge, où vous pouvez faire varier la part entre unité de compte, l'unité de compte c'est tout ce qui est actions, il peut y avoir SCPI ou autre, et fonds euros, tout ce qui est garanti. Et après, sur les fonds euros, les assurances 100% fonds euros, c'est quand même de plus en plus rare de pouvoir y avoir accès. Après, moi, la question que j'avais envie de poser à Christian, c'est justement, vu que vous avez un historique immense sur les assurances vie, est-ce que c'est toujours un peu les mêmes qui sont aux premières places ou est-ce que ça change tous les ans?
Alors, ça, c'est une excellente question. Eh bien, à la différence, par exemple, des fonds d'investissement, non, sont souvent les mêmes. Sont souvent les mêmes qui sont en haut du panier, et notamment les contrats des mutuelles. Je pense par exemple à la MACSF, on aurait pu aussi parler de l'affaire, même si cette année, enfin l'affaire c'est une association, mais la MACSF, le conservateur, ce sont toujours les mêmes qui sont meilleurs dans la durée. Et c'est ça qui est très important. Il ne faut pas regarder les performances une année. Vous avez notamment parmi tous les nouveaux acteurs et les nouveaux entrants sur Internet, des taux boostés artificiellement pour attirer donc les nouveaux versements, voire attirer les encours. Ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que souvent les meilleurs contrats hier sont encore les meilleurs contrats aujourd'hui. Sachant bien sûr que les caractéristiques d'un bon contrat il y a 20 ans et aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'un bon contrat il y a 20 ans, c'était forcément le fonds en euros. On rappelle que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, pas un placement. Donc, au sein de cette enveloppe fiscale, il y a 20 ans, c'était uniquement l'assurance vie sans risque en euros. Depuis le début des années 2000, même à la fin des années 90, aujourd'hui, vous avez, et la plupart des contrats, même anciens, se sont ouverts et vous avez la possibilité de diversifier vos placements. Ensuite, les contrats d'hier sont encore excellents. Bien sûr, il faut souvent les compléter parce qu'ils sont bons sur le fonds en euros avec des contrats plus modernes, plus récents et qui, là, vont offrir une palette, je dirais, d'investissements sans doute qui sera plus variée. Voilà. Ce qui est important, en fait, avec le contrat avec l'assurance-vie, c'est vrai qu'on en parle depuis 5-6 minutes et, en fait, ça, c'est révélateur. C'est révélateur de quoi ? C'est que c'est un placement très grand public, quand même près de 40 millions de Français concernés. Pardonnez du peu. Bon, plus de quasiment 2000 milliards d'euros, 75% du PIB français. À côté de ça, le livret A, ça tourne autour des 500 milliards.
C'est vraiment, 75% de la dette aussi.
C'est vraiment deux poids, deux mesures, positivons. Et pourquoi on en parle depuis tout à l'heure ? Non seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, mais aussi et surtout parce que c'est un placement populaire, mais complexe. Et donc, c'est vrai qu'il est nécessaire un tout petit peu d'essayer de soulever le capot pour voir si le produit que vous avez ou le produit que vous envisagez de souscrire répond vraiment bien à vos besoins.
Un mot pour finir ce tour d'horizon sur l'épargne salariale, car c'est la semaine intergalactique de l'épargne salariale. Et nous avons déjà évoqué hier les niveaux records des PE, des PERCOL, mais nous voulions votre regard sur cette actualité, Christian, ou sur ce baromètre.
Alors, l'actualité, elle est double. Les chiffres, vous les avez déjà donnés hier et vous venez de les rappeler en partie. C'est vrai que l'épargne salariale fonctionne bien, mais là, c'est vrai que c'est la semaine de l'épargne salariale, mais la vraie actualité pour les 12 millions de Français concernés par l'épargne salariale, c'est qu'ils vont, on va rentrer dans la période de versement des primes d'intéressement et de participation. Et c'est ça le côté presque miracle de ce placement, c'est qu'il est alimenté par des primes versées par l'employeur. C'est pas, vous n'avez pas directement à décaisser l'argent. Et donc là, vous allez être confronté à un choix. Ces primes d'intéressement et de participation qui vont vous être versées dans les semaines à venir, vous allez devoir décider soit de les encaisser, soit de les placer. Alors attention, surtout vous devez vous prononcer. Si vous ne vous prononcez pas, une partie de cette épargne, une partie de cet argent va aller sur de l'épargne et sera bloquée jusqu'à la retraite. Dommage, en tout cas si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc le conseil du revenu, bien sûr, c'est de placer cette épargne. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet d'échapper à l'impôt sur le revenu, donc au taux marginal d'imposition sur ces sommes qui du coup ne sont pas taxées. Elles ne subissent entre guillemets que la CSG et CRDS, donc à 9,7. C'est quand même très différent qu'un taux marginal d'imposition à 30, 41 ou 45%. Deuxième, ensuite, conseil du revenu, pour ces primes d'intéressement et participation, placez-le plutôt sur le plan d'épargne entreprise et pas sur l'autre enveloppe fiscale accessible, le plan d'épargne retraite collectif. Pourquoi ? Parce que ce dernier votre argent est bloqué jusqu'à la retraite, tandis que dans le précédent, il est bloqué que 5 ans. Vous en conviendrez avec moi, c'est quand même moins pénalisant. Et le troisième conseil, c'est de choisir les bons supports d'investissement pour cet argent. Encore une fois, si vous ne vous prononcez pas, cet argent va être investi sur des produits sans risque, souvent des fonds monétaires. Et vous savez que les fonds monétaires aujourd'hui rapportent 3%, mais les taux de la BCE et de la Fed vont baisser, les taux à court terme vont baisser, et donc le rendement de ce fonds aussi va baisser. Donc en fait, les bons fonds pour vous, ben, ça dépend un peu de votre horizon de placement. Si vous savez que vous allez avoir besoin de cet argent au cours des 5 prochaines années, vous ne posez pas de questions, vous placez immédiatement sur le fonds monétaire. Si votre horizon de placement est entre 3 et 8 ans, le revenu vous conseille 60% de monétaire, 20% d'obligue et 20% d'action. Et au-delà de 8 ans, vous me placez tout en action.
Voilà ce qu'il faudra bien avoir en tête si et quand vous touchez de l'intéressement ou de la participation. Jean-Louis, le mot de la fin, c'est plutôt bon signe.
Ben c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les entreprises vivent bien, ont des bénéfices et puis que ça bénéficie quand même à beaucoup de salariés. Alors, pas tout le monde, malheureusement, mais l'épargne salariale, ça concerne quand même plusieurs millions de Français et donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, peut-être que l'année prochaine, ça va peut-être un peu plus coincer parce que là, on est quand même sur des niveaux quasi records de bénéfices pour les entreprises, en tout cas pour les grands groupes cotés.
12 millions de Français concernés, un tout petit peu moins de 400 000 entreprises en France qui utilisent des dispositifs. Voilà, tendance que nous suivons de près dans cette émission. Merci à tous les deux. Merci Jean-Louis Dalloro de BFMBusiness.com. Merci Christian Fontaine du Revenu qu'on retrouve dans une heure. Nous allons zoomer sur le PEA.
Eh oui, le plan d'épargne en action. Vous nous posez beaucoup de questions sur cette thématique, aussi bien chez vous, Lorraine, qu'au Revenu. Et c'est vrai qu'on va essayer de regarder. Le PEA est d'actualité. Pourquoi c'est d'actualité? Parce que c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse. Et c'est vrai que depuis début de l'année, comme l'année dernière, ben, la bourse a fortement progressé. Et donc, le petit jeu, ben, ça consiste bien sûr à gagner en net le maximum, donc à optimiser les impôts. Et le PEA, c'est un super outil pour ça.
Voilà. Et nous répondrons à la question de Mathieu, qui possède un PEA depuis bientôt 5 ans. Il a 2000 euros de liquidité dessus. Il souhaite investir sur l'IA. Il nous demande nos bons conseils. Mathieu, on vous répond d'ici une heure. Petite pub et après Nicolas Dose vient nous parler du déficit public. Ce sera la dose d'économie. A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose quotidienne avec notre dealer d'économie. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous allons parler du déficit public 2023. À moins que vous veniez seulement de brancher la télé ou la radio. Vous
c'était
êtes
à 7h30, oui.
Vous êtes au courant que les chiffres ne sont pas bons.
Non. 5,5.
Racontez-nous.
5,5% de déficit. Alors on peut se rassurer en se disant « Oh, on attendait 5,6 », sauf que initialement, on avait prévu 4,9. Oh, vous me direz 4,9, 5,5. Ouais, c'est 0,6 points d'écart. Oui, mais 0,1 point, ça fait 3 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Donc 0,6, ça fait 18 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Objectivement, c'est quand même assez grave. Ça finit par le devenir. Parce que d'abord, les montants sont importants. Là, vous avez le déficit public qui s'élève à 154 milliards d'euros. C'est une année de recettes de TVA. C'est le chiffre le pire de la Ve République en dehors des années de crise et des années de récession. Après, le remboursement des intérêts de la dette, parce que la dette, en fait, c'est du déficit accumulé. Cette année, on dépasse 50 milliards d'euros pour la première fois, pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Au train où vont les choses, là, en 2027, une année de recettes d'impôt sur le revenu, ce sera ce qu'il faudra pour payer les créanciers. Alors, on prendra l'impôt sur le revenu, là, vous payez votre impôt, hop, l'argent s'en va, elle va rembourser les créanciers de la France. On devrait être au-delà des 80 milliards de remboursement de dette. Troisième élément, bon, je crois que tous les pays ont vécu la même pandémie au même moment.
Oui.
Le même choc, en Europe notamment, le même choc énergétique au même moment. On partage la même monnaie que pas mal d'entre eux. Et là, vraiment, l'écart se creuse. Là, vraiment, l'écart se creuse entre nous et les autres. Alors, on va se rassurer. Oh, regardez, l'Italie est à 7% de déficit. Et effectivement, ils ont un ratio de dette supérieur aux autres par rapport au PIB. Sauf qu'on a quand même le record de la dépense, le record des prélèvements, on le sait, le record des émissions de dette. Vous prenez les Pays-Bas, ils sont pratiquement à l'équilibre en 2023. Ils sont à moins 0,3 de déficit. Le Portugal est en excédent. Plus que prévu. L'Allemagne se redirige paisiblement vers les 60% de dette publique, tandis que l'INSEE nous a dit ce matin que la dette publique de la France, même si en 2023, elle est un peu plus basse qu'en 2022, elle est quand même pratiquement un point au-dessus de ce qui était prévu. On est à 111. Donc, l'écart se creuse. C'est un vrai sujet que l'écart se creuse. Et puis, dernier élément, on est en 2024, donc nous allons fêter le 50e anniversaire de nos budgets dans le rouge. Et très probablement, les agences de notation vont nous le faire savoir à la fin du mois d'avril. Je suis persuadé que une dégradation de notes n'aura pas d'effet particulier sur la capacité à placer notre dette publique. parce qu'elle est libellée en euros et qu'on est quand même très corrélé à l'Allemagne. Mais enfin, c'est quand même une sacrée humiliation. Donc, non, c'est pas vrai de dire que la France, c'est la Grèce, comme l'a fait les Républicains. Mais enfin, on a des premières places du podium qu'on n'est pas prêt de laisser tomber. Et on voit que ça se précise et que ça se confirme.
Soyons pragmatiques, peut-être pro-business, devant une situation aussi négative. Que peut faire l'exécutif ?
Ben, il y a une alternative. Soit il faut dépenser moins, soit il faut gagner plus. Alors dépenser moins, on a commencé à le faire avec un rabot d'urgence à 10 milliards d'euros par décret. Bon, on a bien vu l'histoire. On est allé taper dans les administrations centrales, taper dans les ministères, en d'ailleurs rognant sur des dépenses qui ressemblaient à des dépenses d'avenir. Parce que c'était plus simple de taper dans celles-là que dans d'autres, qui sont plus structurelles et difficiles à atteindre. Et puis, là, on va avoir la deuxième salve qui va commencer, très probablement, avec Gabriel Attal, qui prend la parole demain dans le JT de TF1. Sans doute pour commencer à nous donner les grandes lignes de ce que sera la réforme de l'assurance chômage. Ce sera sans doute le point de départ d'une nouvelle salve d'économie de dépenses, cette fois-ci dans la dépense sociale. Je ne vous refais pas la liste, hein, les affections longue durée, les transports sanitaires et tutti quanti.
Bon, donc dépenser moins, l'autre solution c'est de gagner plus.
Alors gagner plus, il faudrait de la croissance, sauf que là on est en phase de ralentissement de la croissance, très nettement. La productivité décline depuis 4 ans, même si la Banque de France a commis un rapport qui se veut un peu rassurant en disant qu'on devrait commencer à rattraper le retard d'ici 3 ans, enfin sur les 3 années qui viennent, le taux de chômage remonte. Alors sinon, pour gagner plus, il vous reste les prélèvements obligatoires, ou dans un premier temps, le fait de couper dans des dépenses fiscales, c'est-à-dire que quand vous taillez une niche fiscale, quand vous taillez un crédit d'impôt, quand vous taillez un avantage fiscal, ça s'appelle pas vraiment une hausse de prélèvements obligatoires, mais ça a à peu près le même effet, et je crains qu'on prenne cette direction-là.
Voilà, le regard de Nicolas Dose sur ce déficit public qui se creuse, sombre 50e anniversaire, vous nous dites. Merci Nicolas, je précise que cette chronique est à retrouver en podcast sur le site ou l'application BFM Business et également sur YouTube si vous voulez participer à la discussion dans la zone de commentaires. À demain, cher Nicolas. Nous allons faire le point hebdomadaire sur les petites et moyennes valeurs.
Tout pour investir en portefeuille.
Le journal des small et mid-cap avec vous, Eric Lewin, bonjour.
Bonjour ma chère Lorraine.
Rédacteur en chef des publications Agora. Comme chaque mardi, on fait le point sur les indices avec quelques opérations qui repartent. Racontez-nous.
Ah ben alors on y va. Alors le CAC small sur la semaine fait plus 1% alors que le CAC 40 fait moins 0,6%. C'est donc un peu mieux, mais depuis le début de l'année, avantage CAC 40 plus 8%, CAC small moins 0,4%. Et oui, les opérations financières reprennent. On a appris en début de semaine qu'il y avait une OPA sur Micropole, spécialiste de la business intelligence, OPA 1,50€, prime de 44%. Et où c'est intéressant, c'est que l'initiateur de l'offre s'appelle Sébastien Lombardo. Il avait fait l'opération Valtech dans les années 2010. Et donc, il s'associe avec deux fonds, Nextage et Dorval, qui ont 21% du capital. Pour lancer cette opération, il risque d'y avoir une bataille boursière dans l'air, puisque la direction de Micropole, qui a plus de 20% du capital, n'est pas pour cette opération et s'accroche. Donc, on va avoir un nouveau feuilleton. C'est plutôt sympathique. Micropole, c'était l'un des derniers rescapés dans ce monde de la business intelligence, puisque business et décision, mais également Kerus avait fait l'objet d'offres publiques. Et donc, ça fait du bien au marché. À noter également, c'est plus gros, 3 milliards d'euros, mais Bolloré vient de prendre 5% de Ruby. On est dans la distribution de produits pétroliers, mais pour lancer une OPA, ça sera compliqué, parce que Ruby est ce qu'on appelle une commandite par action, c'est-à-dire un statut spécial où c'est très difficile de faire une opération financière.
Vous allez nous parler de folie, la folie Esso.
Ben écoutez, la folie Esso, alors Esso, filiale d'Exxon, a plus de 80%. On est dans la distribution et le raffinage de produits pétroliers. Une année 2023 exceptionnelle, puisque l'EBITDA est passé de 780 millions d'euros à 964 millions d'euros. La trésorerie, qui était négative en 2022, est maintenant positive à hauteur de 1 milliard d'euros. Et donc, que font nos amis d'Esso? Ils versent un super dividende, c'est-à-dire qu'en tout, il y a 3 euros de dividende classique et 12 euros de super dividende, ça fait 15 euros. Quand l'annonce est sortie, le rendement était supérieur à 18%, et donc l'action Esso s'envole littéralement depuis le début de l'année. Elle gagne plus de 100%. Esso, elle gagne même 112% depuis le début de l'année, 36% une semaine, 53% en un mois, et donc la société rémunère ses actionnaires de façon intéressante. Bien évidemment, il faut garder le titre ESSO jusqu'au versement de ce fameux dividende, et puis il y a aussi l'aspect spéculatif. Je vous le disais, Exxon a plus de 82% du capital. Quand vous appelez Exxon, est-ce que vous avez l'intérêt d'avoir une filiale cotée à Paris, de ne pas racheter les 18% restants? Il y a une vraie question philosophique à se poser. C'est pour ça qu'il faut encore rester positif sur ce dossier.
Voilà, positif sur ESSO. On va parler d'une dernière valeur. Vous nous ramenez à la maison, si je puis dire, avec Exahome.
Alors oui, spécialiste de la construction de maisons et de la rénovation avec les marques Maison France Confort, Maison Balenci, un secteur qui est dans la panade la plus complète en vraie décrépitude. Alors finalement, les résultats sur 2023 sont solides. Chiffre d'affaires plus 6,3% à 1 milliard. La marge opérationnelle a gagné 40 points à 3,7%. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le groupe sait très bien que 2024 va être une année catastrophique, puisqu'il y a des baisses entre 30 et 40% de prévues. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir sur un chiffre d'affaires qui passerait de 1 milliard à 700 millions. Mais la rentabilité devrait rester au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que le groupe sait extrêmement bien gérer sa crise, a prévu notamment de baisser de l'ordre de 18% ses coûts fixes. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que vous avez une trésorerie nette de 80 millions d'euros, mais le groupe est prudent. Il ne veut pas verser de dividendes, mais s'autorise des rachats d'actions. Et pourquoi j'aime bien ce dossier ? C'est parce que même avec la crise immobilière qu'on connaît tous, ces ratios de valorisation sont, ma chère Lorraine, complètement bradés. PER de 6, et alors valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, on est sur 1,8. Très honnêtement, j'ai passé la cote open fin. Je n'ai pas trouvé, ou peut-être j'ai fait des erreurs, j'ai pas trouvé une valeur qui était aussi peu chère en termes de valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA. Le titre, moins 47% en 3 ans, plus 5% depuis le début de l'année. Vous avez la famille Vendrome qui a 56% du capital, on a un flottant de 42%. Là aussi, pourquoi pas, même si le secteur ne se prête pas du tout à la concentration, parce que dans la construction, c'est un peu la soupe à la grimace. Et pourquoi pas un jour, une opération également sur ce dossier. Donc je suis plutôt positif sur ce dossier, même si on comprend que la construction va connaître une année 2024 difficile, mais tout le monde le sait. Donc est-ce que c'est pas déjà largement intégré dans les cours de bourse ? Pour moi, oui. Donc je pense qu'il y a encore peut-être 15 à 20% à gagner sur ce dossier. Donc Exahome, pour ceux qui cherchent la valeur, ça s'appelait Maison France Confort il y a encore quelques années.
Voilà, Exahome, H-E-X-A-O-M, pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. On a également évoqué ESSO, la marque, je vous imagine que vous connaissez, associée à la compagnie pétrolière américaine Exxon, E2SO, et puis Micropole, hein, en début de chronique avec vous, Micropole. Eric, un petit mot pour finir cette interview. Qu'allez-vous regarder d'ici la fin de semaine? Semaine écourtée sur les marchés. Quel est le mot d'ordre de votre semaine?
Bah écoutez, non, en fait, cette semaine, il va pas se passer grand-chose. Alors, j'ai cru savoir qu'il devait y avoir un... Je crois qu'il y a un chiffre économique vendredi, alors que la bourse sera fermée sur un PCI aux États-Unis. Non, sinon, je regarde moi toujours dans le monde des small et mid caps les opérations qui risquent de se multiplier. Et la grande problématique, c'est toujours celle de la liquidité qui se restreint comme peau de chagrin. Je voudrais juste ajouter une chose. Je pense que ça nous a pas échappé, mais dans les IPO, c'est une décision de l'AMF. La part réservée aux particuliers devient facultative. Vous savez, ma chère Lorraine, qu'il y avait 10% qui était réservé aux particuliers lors d'une introduction en bourse. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans vos émissions.
Oui, on l'a déploré avec François Monnier vendredi de la rédaction d'Investir. Oui.
Ça veut dire également que maintenant, on va réduire les délais de l'offre. On peut avoir des délais de 2 à 3 jours. Ça va simplifier les montages, ça va réduire les coûts. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. L'aspect négatif, bien évidemment, c'est qu'on élimine les particuliers d'opérations qui pourraient être intéressantes alors qu'on a tant besoin des particuliers. Parce que je regardais les dernières statistiques. Dans le monde des small et mid, les particuliers, c'est quand même 40% du volume quotidien. Donc il faut quand même déplorer ce genre de mesure, mais qui n'est pas une mesure obligatoire, c'est-à-dire que rien n'empêche en fait une société de dire bah, écoutez, moi je continue à réserver 10% de mon capital lors d'une introduction en bourse, mais la démarche est à déplorer, d'autant qu'il y a un an l'AMF avait voté exactement le contraire, mais c'est vrai que depuis le collège de l'AMF a évolué, mais enfin il faut quand même déplorer ce genre de mesure.
Voilà, merci beaucoup Eric Lewin pour votre regard sur le monde des mid et small et puis plus largement sur le monde de la bourse. Rédacteur en chef des publications Agora, qu'on retrouve régulièrement dans Tout pour pour investir, mais aussi dans BFM Bourse, qui s'occupe chaque jour dès 15h30 et bien de décortiquer l'actualité financière, celle des marchés, l'ouverture de Wall Street. Guillaume Sommerer et toute l'équipe de BFM Bourse à retrouver en direct 15h30 ou en podcast à n'importe quelle heure. Vous restez avec nous, on va s'occuper de votre argent, notamment si vous touchez une très grosse somme d'argent. Ça peut arriver. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Notre gestionnaire de patrimoine, Bastien Baron, est avec nous pour répondre à cette question.
Tout pour investir, le coach.
Le coach d'argent, le coach de grosse somme d'argent. Si vous venez à toucher une grosse somme d'argent, il y a des erreurs à ne pas faire. Bastien Baron vous prend par la main. Bonjour Bastien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes conseiller en gestion de fortune chez Justae Gestion Privée. Avec vous, on réfléchit à ces situations qui arrivent, pas qu'aux autres. Héritage, donation. Quelle autre situation fait qu'on peut être très très riche du jour au lendemain?
Un gain au jeu, ça peut être sympa. Une vente immobilière, ça peut être vendre sa société, vendre des actions gratuites, lever et vendre des stock options. Il y a pas mal de possibilités. Rupture conventionnelle aussi, on voit des trucs assez importants qui arrivent.
Dans tous les cas, prudence et patience, vous allez nous dire. Il faut réfléchir à ses objectifs financiers. Vous allez nous dire déjà, pour commencer, les pires trucs à faire. Les erreurs que si vous les commettez, vous êtes vraiment mal. Racontez-nous.
Première chose, c'est déjà de ne pas anticiper la fiscalité l'année prochaine. Alors, sur certaines opérations, on est fiscalisé immédiatement, donc c'est assez facile. Mais je prends l'exemple qui est assez régulier, on va dire, sur notamment les ventes d'actions gratuites, les levées et ventes de stock options. La fiscalité, elle est qu'en N+1. Et finalement, si on a accumulé une certaine somme, qu'on l'a dépensée ou qu'on l'a allouée de manière illiquide, ben on a une mauvaise surprise lorsqu'on fait sa déclaration l'année suivante. Et souvent, on se retrouve avec des situations assez rocambolesques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est souvent un biais qu'on peut avoir. On se dit, j'ai une somme d'argent qui arrive, j'ai de la dette, j'ai des flux sortants réguliers, je paye une mensualité.
Par exemple, un crédit immobilier.
Un crédit immobilier, ouais, tout simplement. Et en fait, bah, je me dis, cette somme, je rembourse mon crédit, comme ça, j'ai plus les mensualités, j'ai plus la dette, je suis plus sécure, etc. Et finalement, c'est pas forcément une bonne stratégie parce que donc il n'y a pas eu énormément de crédits sur les deux dernières années depuis que les taux sont élevés. Donc on est plutôt, en réalité, sur des taux à 1 à 2% finalement. Donc faible. Dans le crédit immobilier, il y a quand même l'assurance emprunteur qui permet aussi de protéger son conjoint, sa famille, etc. s'il nous arrive quelque chose. Et puis, si on est à l'IFI, on a en plus une déduction de la dette, donc à des taux de 0,70, 1%, etc. Tout ça fait que finalement, le crédit, il coûte extrêmement peu cher et beaucoup moins cher que ce que votre épargne peut rapporter. On rappelle que les livrets réglementés, livret A, livret développement durable, rapportent 3% net de fiscalité par an. Et qu'on peut aller au-delà si on s'organise.
Bon, vous l'entendez, en tout cas dans le contexte actuel, ça n'est pas une bonne idée de rembourser un crédit immobilier auquel on aurait souscrit il y a quelques années, au moment où les taux étaient bas, même si on touche une grosse somme d'argent. Il y a une chose aussi qu'on est tenté de faire, c'est faire comme les autres, comme quelqu'un de sa famille, comme un ami, un ou une collègue. Et ça, c'est pas une bonne idée, vous nous dites.
Non, parce que forcément, on voit aussi beaucoup d'influenceurs maintenant. Donc, on entend des personnes sur Internet et on se dit, tiens, je vais faire un petit peu comme eux. Sauf qu'en réalité, la personne qui va vous donner un conseil, elle n'est pas dans la même situation que la vôtre, d'un point de vue personnel. Pas le même âge, peut-être pas la même situation maritale, peut-être pas les mêmes enfants, enfin des enfants en tout cas, etc. Le même patrimoine, etc. Et en fait, en plus, surtout, ce qui est important, c'est que vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs. Peut-être pas, en fait, voilà, ce que vous visez, c'est pas du tout la même chose et surtout pas la même appétence au risque. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc souvent, ce qu'on conseille, c'est de ne pas faire exactement la même chose. Et il y a surtout un biais aussi qui est assez universel, c'est que quand on entend des gens autour de soi, tout le monde réussit, tout le monde fait que des bonnes opérations en bourse, on en parle souvent ici. Et finalement, on a l'impression que tout le monde est très bon alors que tout le monde est omet de
raconter des choses qui ne marchent pas.
Exactement, les choses qui ne marchent pas. Donc souvent, on se fait une image et finalement, c'est pas la meilleure solution.
C'est vrai qu'on fait rarement des posts sur les réseaux sociaux sur ces erreurs et les choses qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi quelque chose qui est terrible, c'est quand on gagne une grosse somme d'argent, vous l'avez rappelé, au gain, lors d'une rupture conventionnelle, un gros bonus, une cession de titres, un héritage, c'est de ne rien faire.
Ça, c'est peut-être ce qu'on voit le plus souvent.
C'est vrai.
C'est-à-dire, les personnes se posent des questions, puis le temps passe, l'argent est toujours sur un compte courant, il a été placé sur un livret, vu que les montants sont importants, du coup, qui est non réglementé, donc qui est fiscalisé. Et finalement, bah, le temps passe. Il y a un petit peu d'intérêt, donc on a l'impression de ne pas perdre d'argent, mais finalement, versus l'inflation, on perd de l'argent de manière quotidienne. Mm. Mais bah, on se sent en sécurité, et finalement, le temps passe. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ne rien faire.
Voilà, alors attention, anticipez l'éventuelle fiscalité, ça c'est très important. Ne remboursez pas votre crédit IMO. Ne copiez pas vos collègues, vos amis, et puis surtout, faites quelque chose. Bon, alors maintenant, vous nous avez dit ce qu'il ne fallait pas faire. Dites-nous les choses qu'il faut faire. Quelle est la grille d'action qui est utile à avoir en tête?
Je pense que la première, c'est prendre des conseils. Là, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais en fait, c'est prendre des conseils, c'est assez logique. On peut s'appuyer justement sur ses collègues, sur ses amis, etc., qui sont peut-être eux-mêmes conseillés. Donc, par le jeu des recommandations, c'est quand même intéressant.
Ouais, c'est-à-dire qu'on écoute ses collègues et ses amis pour le carnet d'adresses.
Exactement.
Pas pour les conseils financiers.
Et c'est comme pour un resto, au final. On va leur dire, tiens, où est-ce que je peux aller? Un truc sympa, et on y va. Souvent, le premier rendez-vous, en plus, il est offert. Parce que l'idée est de voir s'il y a un bon feeling qui va matcher, etc. Donc, au pire, vous avez perdu un petit peu de temps et vous avez eu quelques conseils gratuits. Mm-hmm. Et au mieux, il y a une relation qui se crée et vous pouvez avancer. Il y a une chose à préciser qui est assez importante, c'est que ce que beaucoup oublient, c'est pour ça que c'est important de le préciser, les gérants, par exemple, de fonds de private equity qui touchent des carry d'interest importants, il y a des foncières, etc. Tous ces acteurs-là sont accompagnés en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont très très bons dans un domaine particulier. Donc c'est sûr que le gérant de private equity, on ne va pas l'accompagner pour lui conseiller d'autres investissements sur ce sujet-là. Mais sur tout le reste, il n'est pas forcément accompagné. Même chose pour une foncière. Une foncière, évidemment, sur la partie immobilière, elle a l'habitude, ça va être géré, etc. Mais sur toute la trésor et autres, elle est accompagnée également. Mmh. Donc c'est important, en fait, de comprendre que personne ne maîtrise forcément 100% du sujet.
Peut-être une question que j'aurais dû vous poser en début de séquence. Quand on parle d'une grosse somme d'argent, c'est gros comment gros?
Je redoutais la question, j'étais content qu'on l'ait un petit peu zappé. C'est pas facile à dire, mais je pense que c'est, on peut peut-être dire plusieurs années de revenus, par exemple, pour le citer, comme ça dépend des revenus de chacun. Mais c'est une somme qui va quand même changer un petit peu votre vie, c'est pas l'euro million non plus, mais c'est une somme où on commence à se poser des questions. On se dit, mes livrets sont déjà au plafond, j'ai déjà fait quelques trucs, bon bah là, qu'est-ce que je peux faire en plus? Voilà, c'est peut-être plutôt ça l'idée.
Voilà, vous retiendrez qu'une grosse somme d'argent, c'est plusieurs années de revenus pour cette séquence. Bon, on prend des conseils, vous nous l'avez dit, mais il faut aussi réfléchir, planifier d'un point de vue patrimonial. C'est ce qu'on essaye de faire parfois dans cette émission, alors expliquez-nous ce que ça signifie.
Oui, tout à fait, je pense que le but, et de toute façon ce qui va être fait avec le professionnel, c'est aussi de se lancer dans une planification un peu plus globale, une planification patrimoniale. Premièrement, on va commencer par identifier vos objectifs. Donc ça peut être... si vous avez des enfants, anticiper leurs études, ça peut être préparer la retraite, selon votre âge, commencer à optimiser votre transmission, acheter une résidence secondaire, etc. Et ensuite, on va les hiérarchiser, parce que peut-être que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Et l'idée en fait, de tout ça, c'est quoi? C'est que chaque objectif que vous allez avoir ne va pas avoir le même horizon de placement. Et on en parle régulièrement, l'horizon de placement, il est très important, parce que... deuxième sujet, c'est que plus on a l'espérance de rendement, elle est directement liée au risque que l'on va prendre. Et plus on a du temps devant soi, plus on peut accepter une certaine dose de risque, oui, d'illiquidité. Donc le but, ça va être, si j'enchaîne derrière, c'est de créer une stratégie patrimoniale assez globale. En fait, on va organiser votre patrimoine par rapport à l'horizon de placement que vous avez.
C'est construire une pyramide patrimoniale avec tout en bas, quelle épargne?
En fait, au départ, on commence toujours par l'horizon le plus court. Donc c'est quoi? C'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est tout le monde a besoin d'avoir son petit matelas de sécurité, donc de 10 000 à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les personnes, plus toutes les dépenses qui sont certaines dans les 18 prochains mois.
Ok, donc c'est l'horizon de 18 mois.
Ouais, 18 mois maximum, ça c'est ce dont vous avez besoin. En général, c'est quoi? C'est les livrets réglementés, mm-hmm. Livret A, livret développement durable. Ça fait déjà à peu près 35 000 euros par personne. Aujourd'hui, il y a les comptes à terme qui sont encore bien rémunérés. Et ça, en fait, en réalité, ça va vous permettre de couvrir l'inflation. Donc déjà, vous allez accepter de ne pas vous enrichir, mais vous ne perdez pas d'argent.
Après, l'étage du dessus, c'est le moyen terme. Qu'est-ce que c'est le moyen terme?
Alors, l'épargne de moyen terme, c'est un horizon de 4 à 5 ans. Ce sont des dépenses qui sont certaines. Ça peut être, on parlait tout à l'heure d'études des enfants. Vous savez, vous avez un enfant qui va faire un MBA aux États-Unis. Ça va coûter un petit peu d'argent.
Vous allez je vous dis, si j'ai un enfant qui fait un MBA aux États-Unis, il va le financer tout seul.
si c'est possible, ouais, effectivement. Si vous voulez l'aider et autres, voilà, ça peut être ça. Ça peut être, on parlait d'acheter une résidence secondaire. Peut-être que vous avez besoin d'un apport. ça peut être des travaux de toiture, un ravalement de façade, enfin, bref, tous ces sujets-là, vous dites c'est certain dans 3-4 ans, je ne prends pas de risque. Et aujourd'hui, sur quoi vous pouvez être rémunéré? Bah, on voit que sur un contrat d'assurance-vie, aujourd'hui, il y a des fonds en euros qui ont quand même des taux boostés. On va arrondir aux alentours de 4% net, qu'on peut...
Attirer les nouveaux fonds.
Exactement, et qu'on peut peut-être doubler avec des fonds obligataires datés, pas trop risqués, ou des fonds monétaires. Donc voilà, sur ces horizons-là, on peut aller rechercher un rendement de l'ordre de 4% net et sans prendre forcément beaucoup de risques.
Bon, vous avez prévu le MBA de votre enfant, votre nouvelle toiture. Là, on va passer à l'épargne de long terme. Tout ce qui est au-dessus de 5 ans, qu'est-ce qu'on met dedans?
On peut mettre beaucoup de choses, en fait. Là, on peut commencer à accepter deux choses. D'une part, des fluctuations sur le capital qu'on va mettre. Et deuxième chose, une certaine illiquidité. Parce qu'on s'est organisé avant.
Ouais.
On sait qu'on a l'épargne de précaution qui est là. Et deuxièmement, on sait que les dépenses certaines dans les 4-5 ans, elles sont prévues. Donc on peut accepter une certaine dose de risque. Et c'est cette organisation qui va le permettre. Donc là, on va arriver sur énormément de choses. On va arriver sur les actifs cotés, actions, obligations. On peut arriver sur les actifs non cotés. Donc on a parlé un peu de prêt equity tout à l'heure. Ça peut être tout ce qui est dette privée, infrastructure. Dette privée parce que l'horizon est un peu plus court. Et puis enfin, on peut arriver aussi sur des actifs un petit peu plus alternatifs. Ça peut être des hedge funds. On parle souvent de crypto aussi ici. Donc ça peut être un peu des sujets. On a au moins 5 ans devant soi. On peut se permettre cette dose de risque.
Bon, Bastien, pour finir cette pyramide, il y a l'épargne de très long terme. Pareil, là, on est au-dessus de 10 ans. Et là, on est tout à fait prêt à prendre du risque. Qu'est-ce qu'on met dedans?
Exactement. Alors déjà, on peut mettre les mêmes choses que j'ai citées juste avant, avec une dose de risque supplémentaire et une dose d'illiquidité supplémentaire aussi. Donc là, il y a certains fonds de private equity, notamment, qui ont des durées beaucoup plus longues. Ça peut être ça. On peut déjà arriver aussi sur les sujets immobiliers. On investit rarement sur de l'immobilier pour 4-5 ans, sauf si on est sur les opérations particulières, mais je veux dire en règle générale. Donc on va voir ça. On va arriver sur l'art, potentiellement aussi, où là, il y a peut-être un côté affect également. On peut arriver aussi sur tous les sujets de groupements fonciers forestiers, viticoles, qui vont avoir d'autres aspects, pas uniquement de rendement, mais aussi un aspect en termes de transmission. Donc on peut aussi combiner différents objectifs. Et puis potentiellement, selon l'âge que l'on a, on va arriver sur les sujets de retraite également.
Voilà. Évidemment, il nous faudrait une autre émission pour aborder ce sujet, mais en 30 secondes, il y a le sujet de la manière dont on détient cet argent, dans comment on organise ses poches, ses enveloppes. Il y a le sujet de est-ce qu'on détient en direct, est-ce qu'on monte une SCI, est-ce qu'on monte une holding. Ça, on va réfléchir à ce sujet typiquement avec qui?
Même chose, je pense que c'est avec un conseil indépendant au final. Pour l'instant, là, on n'a pas du tout parlé d'une seule solution, d'une seule compagnie, d'un seul fonds, etc. Là, c'est une approche qui est vraiment globale. Ensuite, on va effectivement arriver sur comment on détient ses biens. Donc, on a parlé d'un bien immobilier. Bah, est-ce que je vais monter une SCI? Si j'ai une holding, est-ce que ça a du sens ou pas d'en monter une? Ça, c'est plus sur la partie immobilière. On peut aussi avoir les sujets sur la partie financière. Bah, très bien, c'est bien d'investir dans les actifs cotés, comme on l'a dit, mais est-ce que c'est au sein d'un PEA? Est-ce que c'est au sein d'un contrat d'assurance-vie, d'un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, sur un compte-titre? Donc, ouais, tous ces sujets-là vont arriver après. Et enfin, la dernière étape, ça va être une fois qu'on a trouvé la compagnie qui est potentiellement le meilleur contrat d'assurance vie luxembourgeois, par exemple. L'idée va être après de trouver les meilleurs gérants pour faire la location d'actifs.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans le cas où vous gagnez une grosse somme d'argent, les erreurs à ne pas commettre, les quelques conseils à avoir en tête. Merci beaucoup Bastien Baron de l'équipe de Justaïb Gestion Privée avec nous sur cette séquence de coaching. Vous restez avec nous, petite pause actu et après on continue à s'occuper de votre argent.
Tout pour investir sur BFM Business.